My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
Le copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit:
t'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Aujourd'hui, c'est le retour de notre format spécial interview pour parler des films directement avec ceux qui les font. Mais avant ça, on va remercier tous nos soutiens, car oui, cet épisode de Sale Temps pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Pour ce numéro, côté intervieweurs, ils sont deux, ils sont en forme et ils ont affûté leurs questions. On retrouve Julien. Salut Julien.
Salut Clémence.
Et Stéphane. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et puis l'équipe ne serait évidemment pas complète sans notre producteur, réalisateur, monteur préféré. Salut Alain.
Salut Clémence.
Côté interviewé, un réalisateur qui aime nous faire frissonner avec des thrillers, des drames et des films d'horreur. Le public le découvre en 2004 avec son premier long métrage, Calvaire. Un film d'horreur qui fait forte impression. Il décroche les prix du jury et de la critique internationale à Gérard Armé et sera également remarqué à Cannes. Suivent Vignane en 2008, Colt 45 en 2012, puis Alléluia en 2014, qui constitue le second volet de sa trilogie ardennaise, débutée avec Calvaire. En 2016, passage à l'international avec Message from the King, qui met en scène le regretté Chadwick Boseman. Il boucle ensuite sa trilogie ardennaise avec Adoration en 2019. Aujourd'hui, il vient nous parler d'Inexorable, son nouveau long métrage qui sort en salle le 6 avril. Bonjour Fabrice Duvels.
Bonjour Clémence.
Alors Inexorable, c'est l'histoire de Marcel Belmer, écrivain à succès, de sa femme et éditrice Jeanne Drahi et de leur fille. Et puis c'est aussi l'histoire de Gloria, une étrange jeune fille qui va venir s'immiscer dans leur vie. Dès le début du film, on comprend que les intentions de Gloria ne sont pas franchement nettes, qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc tu as choisi un point de vue plutôt omniscient plutôt que l'effet de surprise. Pour quelle raison ?
Tu veux dire omniscient dans la mesure où il y a plusieurs points de vue ?
Oui.
C'est un peu une idée de temps, de lieu d'action avec quatre personnages, tous très différents, qui sont pratiquement des archétypes. Donc il fallait les construire, il fallait les installer, les construire. Enfin, d'abord, il fallait construire la famille, très précisément. Donc le couple, les tenants, les aboutissants du couple, et les différences même sociales entre les Jeanne, donc Jeanne Drahi et Marcel Belmer, le problème de la petite, la volonté d'avoir un chien, et puis après dessiner les contours mystérieux du personnage de Gloria qui va lentement pénétrer dans cette maison et prendre de plus en plus de place jusqu'à littéralement l'envahir, quoi. C'est l'histoire d'une invasion. C'est un home invasion, comme diraient les Américains.
Justement, moi, je voulais te brancher un peu là-dessus, Fabrice. C'est que, alors, je sais pas si c'est quelque chose qui va te faire très plaisir, mais en sortant, je me suis dit, c'est un film qui est un peu plus dans les clous. C'est-à-dire que c'est un film qui, moi, m'évoque beaucoup les thrillers, notamment érotiques, même si c'est pas super érotique. Enfin, en tout cas, c'est pas là-dessus que tu joues, mais notamment les films d'Adrian Lyne des années 90 et tout. Et voilà.
Que j'adore.
Ah bon, d'accord. Donc c'est un truc, c'est un truc que t'assumes et c'était une volonté en fait d'aller là en fait.
Ah mais j'assume complètement.
D'accord. Okay.
L'idée c'était vraiment, si tu veux, on m'a souvent fait le reproche du côté un peu crossover de mes films, tu vois, qui emprunte à différents genres. Ici, j'avais envie d'être beaucoup plus dans un genre très très circonscrit, qui est le thriller érotique américain des années 90, le Home Invasion, même le film de fantôme, avec des accents un peu giallesques et à ma sauce, avec mon regard, avec la manière dont évidemment je vais traverser tout ça. Mais l'idée, c'était vraiment de faire un truc qui soit beaucoup plus genré, beaucoup plus convenu, presque conventionnel, mais à ma manière. En fait, si tu veux, le Home Invasion, c'est ça qui est formidable dans le Home Invasion, c'est que t'as des codes très très concrets, concis, et c'est toujours la manière dont tu les traverses. Et j'ai un amour incroyable pour ce genre de film que j'ai vu jeune adulte dans les années 90, quoi. C'était
pourquoi justement, qu'est-ce qui t'attire là-dedans?
L'attention sexuelle, ouais. Vraiment l'attention sexuelle, le rapport de domination, l'intrigue, le machiavélisme, les dessins refoulés, les frustrations refoulées, le mensonge, tout ça est un spectacle que j'adore pouvoir regarder quand il est bien articulé, bien sûr.
Là, tu parles du genre en question, ouais. En fait, plus que de Liaison Fatale à proprement parler.
Bah, Liaison Fatale est un film que j'aime beaucoup, ouais. Vraiment beaucoup.
Non, parce que c'est, pour le coup, c'est un film qui est vraiment décrié. C'est étonnant, en fait, on pointe un peu ta cinéphilie, là, du coup, ouais. Qui est quand même assez large, hein, mine de rien. Sur ce truc-là, moi, j'aurais pensé que, par exemple, Basic Instinct aurait été peut-être plus...
Moi, j'aime beaucoup Basic Instinct, mais je vais te dire... J'adore Adrian Lyne. Même le dernier, tu vois, le remake de Au Profond, là, c'est sûr que c'est pas le film de Deville, mais il y a quelque chose de malade. Et puis ça fait du bien de voir du cul comme ça, ou de la tension sexuelle comme ça dans un cinéma américain qui est devenu complètement aseptisé. Même si tu crois pas énormément aux scènes, le couple, tu vois, Ben Affleck, Ana de Armas, tu vois pas très très bien où ils veulent en venir. Et puis ils sont vraiment tous détestables. Mais les scènes, tu vois, enfin, il y a un engagement. Donc bon, c'est pas le meilleur de Adrian Lyne. Je vais essayer de pas me perdre. Mais Liaison Fatale, Fatal Attraction, est un film que j'aime beaucoup. Alors c'est un film aussi qui est la vision et la radiographie d'une époque. C'est sûr que tu peux plus traiter les femmes comme ça, les personnages féminins, comme Adrian Lyne les traitait dans les années 90. C'est impossible. Et je l'ai fait d'ailleurs. Enfin, bon, je me mesure pas à Adrian Lyne ici, ni à Fatal Attraction, mais dans Inexorable, c'était aussi une volonté comment on traite les personnages féminins. Mais j'adore ce film. Il me provoque un plaisir de réel, immédiat, quoi. Je trouve que le personnage de Glenn Close est quand même un des grands, grands personnages féminins de ces années-là, comme le personnage de Kathy Bates dans Misery, quoi. Il y a quelque chose.
Donc, ce que t'aimes, et ce que tu voulais peut-être retrouver dans Inexorable, c'est le côté très incarné, oui. Très sexuel et cette tension, et peut-être aussi le côté un peu vénéneux, c'est-à-dire un peu transgressif. C'était ça, Adrian Lyne. Enfin, moi, c'était de la transgression un peu quand même assez gentil, quoi. Oui, oui. Mais il y avait ce petit côté où tu te disais, bon, je devrais peut-être pas totalement être du côté de ce personnage ou avoir une demi-molle en regardant telle scène, quoi.
Parlons de mise en scène plutôt, Julien. Je pense que dans la mise en scène, dans Fatal Attraction, regarde la mise en scène, le film est vraiment d'une grande, grande, grande dextérité, d'une grande précision au niveau de la mise en scène. C'est quand même des ressorts qui sont absolument incroyables.
Mais c'est tellement éloigné de ton cinéma en même temps au niveau de la mise en scène, ce type de filmage extrêmement, enfin, qui vient de la pub, avec les intérieurs très enfumés.
Non, je suis pas d'accord.
Ah ouais, t'es pas d'accord.
Je suis pas d'accord. Alors, je me.
J'ai pas l'impression que tu cherches la même fonction dans le plan, en fait. C'est ça ce que je veux dire que chez Adrian Lyne, par exemple.
Je crois que par rapport à Adrian Lyne et tous ces réalisateurs, tu vois, des années 90, que ce soit Tony Scott, Ridley Scott,
toute cette école de la pub,
tu vois, enfin Alan Parker, etc.
Alan Parker, ouais.
Il y a quelque chose qui, en tout cas, je pense qu'on partage ça. C'est donc un sens de l'image réelle, donc certes un peu désuet aujourd'hui, mais une matière. Il y a quelque chose de matiéré dans l'image. Et ça, c'est quelque chose qui m'a accompagné. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai vu Stéphane il y a quelques jours en interview à l'hôtel machin là. Il y a Massacre à la tronçonneuse, mais il y a aussi Blade Runner. D'ailleurs, Blade Runner, l'image de Blade Runner, c'est quand même quelque chose dans la vie d'un jeune cinéphile. C'est quand même quelque chose. Il y a un avant, un après. T'appréhendes l'image autrement. Alors bien sûr, Adrian Lyne, c'est un plaisir coupable. Mais pas si coupable que ça, parce que je m'en fiche, je l'assume complètement. Mais ce que je veux dire, c'est simplement que par rapport à ta question, l'idée pour moi, c'était de faire quelque chose peut-être plus convenu, mais qui distille un vrai sens de la tension, donc un suspense, un crescendo dans la tension, et surtout un exercice de style qui me contraigne, qui me contraigne à créer cette tension jusqu'au bout, avec des arcs et des ponts dramaturgiques cohérents et qui tiennent la route.
Mais ceci dit, en fait, pour revenir un peu sur Inexorable, vraiment, en fait, si tu veux, je pense que l'idée de citer Liaison Fatale, il y a aussi l'idée que tu sais, toi, en tant que cinéphile, qu'il y a forcément quelqu'un qui va te le dire, en fait. Tu vas te dire, mais attention, t'avais fait un film à la Liaison Fatale, on va dire, puisque c'est devenu un genre, en fait, à cause de Liaison Fatale, quoi. Quoi qu'on pense du film, en fait. Toutefois, le truc qui est très intéressant aussi dans le film, c'est qu'il y a du cul dans Inexorable, mais il y a du cul, c'est différent, en fait. C'est-à-dire, oui, c'est que la façon, déjà, il y a ton approche crue, on va dire, de ça. C'est pas du cul un peu justement comme disait Julien avec à demi molle puisque justement en fait en gros il y a carrément un arrêt quoi en fait on part là-dessus et tu t'arrêtes complètement en fait c'est-à-dire que la scène va pas jusqu'au bout puisque les personnages ne vont pas jusqu'au bout quoi.
Bah, la sexualité de toute façon chez moi.
Et ce que je veux dire c'est que, excuse-moi tu détournes en fait du coup les attentes sur ce point-là quoi oui. Parce que finalement on ne reviendra
excitant,
pas
voilà,
on en reviendra pas dessus
en tout
quoi.
Cas excitant de façon évidente c'est-à-dire quand tu allais voir un film comme ça. Tu savais qu'il y avoir un peu de la fesse et que ça allait être sympa parce que l'actrice, tu l'aimais bien et tout. Non, mais c'était ça aussi, proposition indécente.
À l'époque, oui.
À l'époque, je veux dire. Toi, c'est moins ça, en fait. C'est-à-dire que c'est moins trivial sur ce côté-là, quoi. Tu vois.
Mais pour moi, la sexualité, elle fait vraiment partie des personnages. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus intime que la sexualité. Il n'y a rien de plus particulier. On ne connaît jamais vraiment les gens. Et puis sexuellement, on est tous différents. C'est très, très étonnant. Donc ça révèle toujours quelque chose. Et la sexualité dans Inexorable est une sexualité qui met en lumière certains aspects dramaturgiques ou certains aspects psychologiques. On voit bien que ce personnage de Marcel Bellemer n'arrive pas à faire sa femme. On voit ces deux corps qui s'emboîtent pas, qui ont du mal. La seule manière pour lui plus tard de lui faire l'amour, c'est de la dominer, de la salir, tu vois. Enfin, donc il y a quelque chose comme ça qui révèle, qui met en lumière. Donc moi, le sexe pour le sexe au cinéma, bon, en tant que spectateur, oui, pourquoi pas, ça peut être amusant. Mais dans mon cinéma, le cinéma que j'essaie d'articuler, non. Mais vous parliez d'Adrien Lyne et de Fatal Attraction, mais j'aime beaucoup, encore une fois, ces films-là. Mais au fond, je pense que l'origine de Inexorable, c'est beaucoup plus Liver to Heaven de John M. Stoll avec Gene Tierney, ou Voici le temps des assassins de Duvivier, que les érotiques thrillers des années américains des années 90. C'est-à-dire que... Mais bon, là, je fais un peu du name dropping et je dis des trucs, on s'en fout un petit peu. Moi, ce que j'ai vraiment essayé de faire, les gars, vraiment très franchement et très modestement, c'est un film qui remplisse le cahier des charges, qui arrive vraiment à être dans une convention un peu plus large, ouvrir un peu mon cinéma et être surtout dans la tension, la réelle tension et le plaisir. Le plaisir de ce genre de cinéma. Après, les gens, ils voient ce qu'ils veulent. Certains disent, ouais, mais c'est un peu conventionnel, c'est un peu convenu. On a déjà vu ça. Mais oui, bien sûr, mais ça, c'est le genre circonscrit qui dit, on a déjà vu ça, bien sûr. Mais après, c'est toujours la manière dont on traverse. C'est la mise en scène, c'est le travail du metteur en scène.
C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a la façon de prendre le film. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens qui pourraient trouver ça éventuellement conventionnel, c'est les gens qui connaissent pas forcément ton cinéma, quoi. En tout cas, qui se disent, ah bah, pour du Duvel, c'est peut-être conventionnel, effectivement, mais. En vrai, pas tant que ça, en fait, quand tu réfléchis, puisque justement, dans le genre, en fait, thriller érotique, etc., t'as toujours des personnages, en fait, qui sont un peu plus... Enfin, tu vois, Michael Douglas, tu vois, sans enlever quoi que ce soit à Benoît Poulvord, hein, mais Michael Douglas, c'est censé être le beau mec d'Hollywood ou je sais pas quoi, alors que là, c'est Benoît Poulvord, tu vois, c'est un peu plus... Enfin, c'est un acteur à la base comique qui est révéré pour ça. Toi, tu viens, tu le casses, tu vois, même si, encore une fois, ça arrive régulièrement, en fait, qu'on l'ait cassé dans sa carrière. Hein. Je pense au film d'Anne Fontaine, par exemple, où ils ont vraiment cherché à faire autre chose, quoi. Moi, j'aime pas forcément ça, mais... En tout cas, c'est clairement pas le Poulvord qui déconne, quoi. Donc là, c'est pareil, c'est la même logique. Et mine de rien, en fait, t'as beau essayer d'ouvrir ton cinéma, ça reste quand même quelque chose de goûtu, quoi. C'est-à-dire pour initier, à mon sens. Hein,
Bah oui, mais ça, c'est normal. C'est-à-dire que je pense, hein, c'est-à-dire que je me vois mal... Enfin,
faire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi.
C'est impossible pour moi. Enfin, c'est-à-dire que je vois bien aujourd'hui avec l'expérience, le parcours que je peux essayer d'ouvrir, mais en même temps, il faut que je, enfin, faire un film pour moi, c'est pas juste faire un film. C'est un moment existentiel très, très important. C'est-à-dire, c'est comme une sorte d'exorcisme. Tu mets en lumière les tréfonds de quelque chose. Tu développes quelque chose. Donc il y a dans l'expression quelque chose qui est vraiment très très intime pour moi. Mais avec mon amour du cinéma et en essayant simplement d'ouvrir un peu plus. Mais je vois que les réactions aujourd'hui sur Inexorable sont plutôt positives. C'est-à-dire que les gens, même ceux qui aiment pas le genre. C'est-à-dire que mais ça, je crois que c'est simplement tout le travail qu'on a fait sur la tension. Vraiment créer ce suspense aussi. Tu vois, par exemple, généralement, mon cinéma est... Au début, je mets le spectateur face à quelque chose qu'il doit acheter immédiatement. Et ici, il m'intéresse... J'ai voulu vraiment prendre les gens un peu plus par la main, les entraîner dans cette maison, de manière un peu plus chabrolienne, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, qu'il y a les contours de quelque chose qu'on connaît, et puis après, dévisser lentement les choses et faire monter cette putain de tension.
Mais pourquoi t'as eu cette volonté-là, en fait? Est-ce que c'est en réaction peut-être à Adoration, qui, pour le coup, allait très, très loin, en fait, dans une des apparences, en fait, de ton cinéma, ou... Enfin, voilà, quoi.
Bien sûr. C'est toujours en réaction à quelque chose qu'on vient de terminer. Adoration est un film que, personnellement, j'aime beaucoup, mais je vois bien qu'il y a une incompréhension chez beaucoup de gens sur le film. L'argument est très ténu. Il est très sensible. Il est dans une sorte de fantastique, de réalisme magique un peu très très différent de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Le film a probablement des défauts, mais c'est un film dans lequel je me suis beaucoup investi, et donc le point de vue branlant du personnage, la fébrilité en fait du personnage du jeune Paul épousait complètement, enfin la caméra épousait la fébrilité. Ici, il y avait, comme dit Clémence, quelque chose de beaucoup plus omniscient dans la manière de construire le film, les points de vue, de construire. En fait, j'essayais de faire un film qui était plus, mais de faire un film un peu plus cérébral, tu vois, dans sa construction. J'ai essayé de construire une petite maison bien charpentée. Vraiment, très simplement, mais très modestement, mais avec toute la dextérité, l'artisanat que j'ai acquis.
Mais ça se traduit comment, du coup? C'est peut-être sur le... Parce que tu parlais, par exemple, du travail sur les personnages. C'est... Là, je sais pas, t'as peut-être écrit, posé plus de choses dans la pratique, en fait. Comment ça s'est traduit, justement, cette volonté?
Bah, il y a l'écriture, d'abord. Il y a une écriture, tu vois, avec cet argument-là qui, certes, est convenu, que les gens connaissent, etc., sur l'erotic thriller, sur le home invasion. Après, c'est le travail sur les personnages, dans l'écriture. Puis après, il y a le casting, forcément. C'est ramener énormément au casting, ramener à la singularité, aux accents, au mystère des acteurs, à l'intersection intime qu'ils ont tous par rapport à leurs personnages. Et créé avec, toujours avec mon chef opérateur Manuel Dacos et mon directeur artistique et aussi chef d'écho Emmanuel de Mollemeister, créer une intersection, tu vois, au niveau de la mise en scène. Donc le décor, la lumière et la mise en scène et les acteurs. Et tout ça, c'est un dispositif qu'on creuse avec quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus établi, et avec une conscience et une volonté tout le temps permanente sur la tension. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut être tendu? Je vois bien, vous le savez, comme vous, hein, mais je vais beaucoup, beaucoup au cinéma. Je suis toujours très sensible aujourd'hui à maintenant comment un film peut être tendu, comment il peut avoir des ressorts pour continuer à être en état de tension sur le film. Et comme c'est aussi quelque chose qu'on m'a pas mal reproché, notamment sur Adoration, oui, mais c'est airy, c'est un peu, ça navigue, ça.
Mais quand tu dis qu'on te l'a reproché, c'est qui?
Bah, une certaine presse, c'est toujours la même chose. Après, tu sais,
ceux qui te connaissent pas, en fait.
Voilà, oui. Et donc, si tu veux, c'est toujours en volonté de dire, voilà, ok, vous prenez là, je vais vous montrer, je vais faire quelque chose de tendu. Et donc, voilà. Et en même temps, ça concourt toujours à l'expérience. C'est-à-dire que ça prépare, à mon avis, mon prochain film, qui est un film sur lequel je travaille depuis très longtemps. Et je pense aujourd'hui être prêt, réellement prêt, à avoir la maturité, l'expérience, la dextérité. Mon artisanat est beaucoup plus aiguisé. On verra, on jugera sur pièce, hein, mais voilà. Tu vois, c'est toujours ça. C'est-à-dire que je me considère vraiment comme un artisan et j'essaye toujours d'explorer quelque chose avec mon amour du cinéma qui est le mien, total, infini, mais essayer de toujours ajouter une pierre à mon petit édifice, quoi, tu vois.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a cette idée d'aller vers le public assez régulièrement.
Oui.
pour toi, sans forcément peut-être y arriver. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, quand on fait un film comme Calvaire ou même comme Vignan, quand on pitch les films, il y a des attentes. Et en fait, les attentes, elles sont complètement subverties par le film en soi. Parce que, en gros, le film, pour moi, les films te ressemblent à 300%. En fait, il y a cette recherche de l'émoi qui surpasse tout le reste, en fait, tous les codes du genre, tout ce qu'on peut attendre en fait d'un film comme ça. Et du coup, quand tu fais Cold 45, même si bon, on sait comment ça s'est passé, on sait que ça a été un bordel et tout, il y avait l'idée de faire un vrai grand film populaire à la base. Quand tu fais Message from the King, il y a l'idée de faire un film américain pour le public américain aussi, etc., etc.
Également dans des codes en plus très très identifiés,
du revenge movie ou ce genre de choses, quoi. Tout en essayant d'avoir, c'est-à-dire le beurre et l'argent du beurre, quoi. Vraiment, comment dire, d'arriver à avoir les deux. Et finalement, en fait, j'ai l'impression qu'avec Inexorable, le meilleur moyen, c'est de le faire dans ton coin toi-même, tout en essayant de t'imposer ces petites notions-là, en fait. C'est là où tu y arrives, c'est plus équilibré quelque part, quoi.
Oui, oui, mais aussi, tu vois, enfin, on parlait un peu avant l'émission, tu vois bien qu'aujourd'hui, ben voilà, j'approche les 50 ans, bon, je suis toujours aussi impétueux et aussi passionné, hein, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que j'ai plus de bouteilles, j'ai plus d'expérience et j'essaye d'être moins impulsif dans ma manière de faire. C'est-à-dire que je lutte toujours contre mon impulsion et aujourd'hui j'essaye simplement de grandir. J'essaye simplement que mon cinéma, oui, il est dans les mois, il y a quelque chose.
T'as pas peur de perdre un peu de ton énergie là-dedans?
Non, je pense pas, parce que j'en ai beaucoup. J'en ai toujours beaucoup, beaucoup, et ma passion est totale, elle est intacte. Et simplement, aujourd'hui, j'essaye simplement d'être beaucoup plus, il y a toujours la volonté d'aller, faire des choses. Quand on te propose de faire un film, t'as toujours envie d'y aller, mais après, tu penses à l'entourage, tu penses au, voilà, qu'est-ce que ça va engendrer? C'est-à-dire que j'essaie d'être plus un joueur de poker, ce que je ne suis pas du tout, malheureusement. Je suis absolument pas quelqu'un de très politique. Je suis vraiment dans l'ici et maintenant, et c'est vraiment, je calcule peu, malheureusement, hein, vraiment. Mais j'essaie, tu vois, j'en ai conscience, donc j'essaie toujours maintenant de me dire, voilà, ce que tu fais, qu'est-ce que ça engendre comme conséquence. Et par rapport à mon cinéma, c'est sûr que travailler avec, entouré de gens bienveillants et d'une équipe fidèle, tu vois, d'artisans doués. Où il y a une sorte de d'harmonie et d'homogénéité, c'est pas parfait, hein, c'est pas l'île au trésor, tu vois, mais il y a quelque chose qui porte. Et donc c'est comme ça que j'ai envie de travailler, oui, bien sûr.
Alors justement, là, sur ces conditions de travail, je voulais qu'on revienne quand même sur la scène de sexe entre Mélanie Douté, enfin le personnage de Mélanie Douté, celui de Benoît Poulevard. Déjà,
la première.
Et là, ouais, celle où il n'y arrive pas, quoi, en fait. Mais même les deux, en fait, quelque part. Parce que dans la pratique, c'est... Déjà, c'est assez rare, je trouve, en particulier dans le cinéma d'aujourd'hui, mais même dans le cinéma en général, de voir des acteurs connus se mettre littéralement à nu. Enfin, je veux dire, elle est difficile, je pense, à tourner pour eux, cette scène, à l'accepter. En plus, on sait que Poulevard est relativement...
Il a une pudeur.
C'est marrant de préciser ça, parce que c'est vrai qu'il a une pudeur, mais sauf quand il fait le guignol, justement. C'est-à-dire qu'on l'a vu à poil, hein, dans C'est arrivé près de chez vous, par exemple. Mais c'est arrivé près de chez vous, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est pas grave de déclamer un poème sur les pigeons en montrant son cul, quoi. Alors que là, pour le coup, c'est quand même autre chose, quoi. C'est vraiment, en fait, justement, c'est pas là. Il a montré son cul et montré son cul.
Mais c'est vrai que c'est une scène où toi, en tant que spectateur, tu as la sensation. Enfin, moi, j'ai eu la sensation de voir un truc que j'aurais pas dû voir, en fait. Et c'est d'autant plus troublant que c'est des acteurs que j'ai clairement identifiés par ailleurs, et que je pense que j'ai quelque chose qui me travaille, en fait, derrière la tête. Je veux que tu m'en parles un tout petit peu, que tu nous parles aussi de la conception de la scène. Comment tu travailles, comment t'obtiens d'acteurs pareils, quoi.
D'abord, je vais vous dire que je suis vraiment content que vous souligniez cette scène, parce que c'est ma scène préférée, et je pense que c'est probablement la scène que je préfère de toute ma filmo. Parce que je trouve qu'elle touche à quelque chose d'intime et de terrible à la fois, dans cette impossibilité à être à deux et cette impossibilité à être seul, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui est terrible dans cette scène. En fait, elle était dans le papier, elle était sur le papier.
C'est très écrit, une scène comme
ça? Non, c'est pas écrit, c'est écrit, mais sur papier, tu sais, bon, ok, il veut faire l'amour avec sa femme, il arrive pas à bander, so whatever, tu vois, enfin, okay, très bien. Après, tu te dis, bon, mais comment tu l'as retranscrit, comment tu la mets en musique, comment tu la transcendes ou pas. Donc je suis allé voir mes camarades, hein, toujours les mêmes, et je leur dis, voilà, on va faire un plan séquence, on va se démerder pour faire un plan séquence. Et donc on articule un mouvement dans la pièce, dans le décor, avec la lumière. Donc c'est toujours la même chose. On pense la lumière et le décor avant la scène avec les acteurs, puis on fait venir les acteurs.
Le plan séquence, c'est une façon d'être le moins intrusif possible dans le vis-à-vis des comédiens.
D'être comme si on n'était pas là, quoi. Après, je vais les voir. Le truc aussi, c'est que j'ai établi des rapports avec Benoît et Mélanie, qui sont des rapports intimes, précieux. Ils me font confiance, tous les deux. Il se trouve que Mélanie et Benoît se connaissent très, très bien. Ils se connaissent depuis 20 ans. Ils sont amis, tu vois, ils sont vraiment amis depuis 20 ans. Donc, ce qui a facilité pas mal de trucs. Et je dis à Benoît, voilà, j'aimerais vraiment qu'on y aille, quoi. Qu'on y aille. Donc, j'aimerais que tu sois tout nu et que, voilà, il comprend très, très vite où je veux en venir. Très très vite, il comprend où je veux en venir. Il dit ok, d'accord. Il discute un peu avec Mélanie, je la laisse faire le truc, puis après je leur montre comment j'aimerais faire le truc, et en harmonie, en accompagnement avec la caméra, parce que vous voyez bien que la caméra, il y a des moments qui sont très précis où il y a telle chose, telle chose, telle chose. Donc on fait une espèce de parcours, de géographie, un peu des trucs. Puis après on tourne, on la tourne 3-4 fois. Moi je suis à côté, je leur parle. Donc je leur parle, ils ont ma voix, comme je fais souvent, en fait, je parle toujours aux comédiens. On vide le plateau, évidemment, parce que c'est pas qu'une scène de cul, en fait, le cul, on s'en fout, c'est ce qu'elle révèle.
Profondément intime, en fait.
C'est ce qu'elle révèle, en fait. C'est ce que cette scène révèle. Et je pense que les deux, même les trois, celle avec Alba, avec la jeune Gloria, est différente, mais là, on est vraiment dans une pulsion animale d'un
peut-être
homme.
Peut-être plus facilement, voilà, pour les comédiens, parce que c'est plus décorrélé d'une certaine réalité. Non,
mais là, t'as Alba qui était un peu inquiète, savoir comment ça allait se passer, etc. Et moi, j'ai vraiment dirigé Benoît comme un prédateur. Je lui disais, t'es un animal, t'es dans la forêt, t'as une petite biche qui passe, tu l'attrapes, tu la mords, tu la croques et puis tu pars. C'était vraiment ça l'idée, quoi. Et donc c'est toujours très imagé comme ça. La deuxième scène de sexe avec Mélanie est une scène crade, mais on voit bien les ressentiments le ressentiment de cet homme qui arrive qui est complètement dominé par sa femme économiquement, socialement, culturellement. Il est écrasé par cette femme, et la seule manière, en fait, de la dominer à son tour, c'est de la dominer physiquement, sexuellement, mais en la traitant, et elle aime ça. Donc si tu veux, et ça, c'est vraiment les trucs que t'apprends dans avec l'expérience sur les couples. C'est jamais blanc noir, c'est toujours des zones de gris tout le temps, et de plus en plus. Et donc ça m'amusait beaucoup d'essayer d'approcher, de retranscrire et de révéler, en tout cas, cette intimité.
J'aime beaucoup. Ah, Clémence, pardon, tu voulais poser une question, excuse-moi.
Oui, alors bah, vas-y si tu veux, j'enchaînerai après.
Comme tu veux. Bon, alors attends, mais en fait, j'adore l'écriture de Jeanne. C'est peut-être le personnage dont l'écriture me touche le plus, parce qu'elle est pas évidente, en fait. Et j'adore comment le côté malfaisant, en fait, du personnage se dévoile un tout petit peu, et de façon pour moi inattendue. C'est-à-dire que pendant très longtemps dans le film, elle ne fait que le bien, quelque part, ce personnage-là. T'as l'impression qu'elle n'est que dans la générosité, et progressivement tu te rends compte que non, en fait, c'est pas du tout aussi simple, quoi. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, et que tu me parles aussi, alors ça peut sembler un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, c'est sa cigarette électronique. C'est-à-dire que l'omniprésence de ce truc-là, je sais pas, moi, il y avait un truc qui... C'est comme si ça me donnait un signal que ça allait... Il y a un rapport avec l'addiction qui est soi-disant inoffensif, mais il y a quand même une addiction qui est là. Je me suis dit, c'est pas un détail, en fait, ce truc.
Non,
en fait.
Non, et on cherchait quelque chose pour ça. Tu vois, on cherchait quelque chose qui est la structure. Alors d'abord, je vais revenir à l'origine de ta question. C'est sûr que d'abord, à l'écriture... tout le monde pointait le personnage de Jeanne en disant ouais, c'est le personnage le plus faible, c'est le personnage le plus boring, le plus emmerdant, on s'en fout un peu, il faudrait le structurer, il faudrait lui donner un peu plus de texture. Surtout maintenant dans les commissions, tu sais, dans les commissions, il y a beaucoup de gens qui sont très attentifs aux personnages de femmes, et on t'emmerde beaucoup là-dessus. Mmh. Pour les vieux boomers comme moi, c'est parfois un peu compliqué, parce que tu dis bon, ok, très bien, mais tu vois, enfin,
laissez-moi faire mon film.
Mais pourquoi pas? Mais en même temps, c'est très bien. J'ai pas de problème par rapport à ça, et en même temps, c'est toujours pour un mieux. Cette force à aller plus loin et de chercher plus loin. Mais je sais comment ça se passe pour moi, c'est-à-dire que je sais qu'il y a l'écriture, et puis à un moment donné, quand il y a quelque chose qui est cristallisé avec l'acteur, je vais beaucoup plus loin. Avec Mélanie, quand on a décidé de faire ce film ensemble, j'ai vu très très vite que Mélanie, ce qu'elle est, donc le milieu duquel elle vient, son élégance, son élégance naturelle, enfin il y a plein de choses comme ça qui me faisaient étroitement penser à ma mère, à ma propre mère, grande bourgeoise, qui semblait très à l'aise de tout et qui a complètement, c'est encore une femme d'une autre époque, c'est une femme qui ont investi, tu vois, de leur mari de tout, tu vois, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est complètement investi dans l'ordre de Marcel Bellemare. Il y a quelque chose qui est total, un abandon de tout. Et pratiquement comme quelque chose de chosifié. On a l'impression qu'elles sont soumises, mais alors pas du tout. Tu vois bien qu'il y a quelque chose où elle est en contrôle de tout. Elle en a fait sa chose. Elle en a fait son auteur. Elle en a fait un vrai substitut au père. Parce que le film aborde la question du népotisme, du déterminisme et tout ça, évidemment, aussi. Et donc, si tu veux, dans cette projection qu'elle a pour Marcel Bellemare, elle a, tout en le contrôlant de manière totale, elle est complètement dépendante. Dépendante en termes d'image, en termes de respectabilité, en termes d'affiche, en termes de couverture sociale. Et donc, il y a quelque chose qui me plaisait beaucoup dans le fait de dérégler ça. De dérégler ça à partir du moment où la brèche du mensonge apparaît. Comment elle s'en défend, jusqu'où elle va. Et je pense qu'on aurait pu la pousser encore plus loin, mais j'étais très attentif à son humanité. C'est-à-dire que pour moi, il était hors de question de juger ce personnage, comme j'essaie jamais de faire, tu vois. C'est simplement de donner les contours du personnage dans ce qu'ils ont de plus intime, jusqu'au moment où cette femme se rend compte que ses 25 dernières années sont un mensonge, qu'elle a investi du vent. Mais ça arrive souvent, ça, en couple.
Oui, mais ce qui me plaît, c'est qu'elle n'est pas simplement victime, en fait. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, dans son rapport à sa fille, il y a quelque chose qui est... Elle a presque... Tu parlais tout à l'heure d'histoire de fantôme. Pour moi, il y a quelque chose presque du vampire, en fait. Dans ce rapport aussi de niveau social, quoi. C'est-à-dire que lui, t'as l'impression qu'il vient d'un
c'est un prolétaire, oui.
Voilà, c'est ça, beaucoup plus bas qu'elle. Et du coup, en fait, il y a une façon de... se nourrir de lui et des autres, en fait, mais sans en avoir l'air. C'est peut-être le côté un peu gaucho qui parle là, mais j'ai ressenti ça, en fait, si tu veux, en elle. C'est ce que je voulais dire sur le... C'est pas tant que tu la condamnes, en fait. C'est que, évidemment, elle est beaucoup moins lisse qu'elle n'y paraît au début. Ça, c'est une évidence. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu la condamnes pas immédiatement. Tu te dis pas le danger ou le côté malsain de ce foyer vient d'elle au début. Et après, tu te dis, mais si, en fait, elle a un truc qui est pété, en fait, dans son rapport aux autres, à sa fille, ou à ce chien, à la totalité.
Ouais, puis il y a le portrait de la grand-mère aussi.
Oui, oui. Voilà. Bon, après, on rentre vraiment dans les détails du film, et pourquoi pas, mais
allons-y.
Mais ce qui moi, m'amuse beaucoup, en fait, c'est toujours la même chose, c'est d'essayer de pousser ce qui semble être évident. C'est-à-dire que là, évidemment, il y a les contours d'une famille parfaite. Ça a déjà été fait et bien mieux, hein. Mais là, en tout cas, ce dérèglement, ce Jeanne qui va de plus en plus loin comme ça cette volonté de contrôle, c'est-à-dire qu'effectivement il y a l'empathie directe, c'est-à-dire que si tu veux, très souvent les grandes bourgeoises, parce que moi je viens d'un milieu très bourgeois, et donc ma mère, ses amis, plus aujourd'hui, hein, parce que ma mère maintenant c'est différent, ses copines, les copines de ma mère investissaient leur mari, tu vois, très très fortement. Et jusqu'au jour où il y a une espèce d'aveuglement complet sur l'investissement qu'on donne. Et quand il y a un mensonge, quand il y a quelque chose qui dérape, c'est comme un séisme. Parce que il y a une responsabilité. Je pense qu'il y a une réelle responsabilité de ces femmes-là ou de ces gens qui investissent complètement l'autre de tout. Et tu vois bien en plus qu'elle est dans un contrôle permanent de tout et de tout le monde. Quand elle est avec cette jeune Gloria, il y a la volonté narcissique, donc c'est-à-dire que tu as perdu ton père, tu as perdu tes parents, moi aussi, donc je suis en effet miroir par rapport à toi. Tu es dans le besoin, je me donne bonne conscience, viens avec moi. On voit bien aujourd'hui.
Elle se met dans la posture du super-héros.
On voit bien les réseaux sociaux aujourd'hui, tu vois, t'as tous les gens, dès qu'il y a un truc dans le monde.
La fausse bienveillance, tu veux dire.
Oui, mais tu vois bien, c'est-à-dire l'empathie insupportable de tous et de tout le monde aujourd'hui, c'est l'empathie narcissique. Ouais. Parce que tu vois, Christine Taubira se présente, tout le monde est Christine Taubira. Tout le monde est drapeau ukrainien, tout le monde est ceci, tout le monde est cela. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, ça devient insupportable. Cette manière d'afficher son empathie incessante. Et je pense que Jeanne, il y a de ça un peu. Ouais. C'est l'espèce de j'affiche une empathie réelle, mais en même temps, elle ne l'écoute pas, cette gamine. Elle ne la regarde pas. elle est engoncée dans sa propre certitude.
Bah, elle la voit pas venir, quoi, littéralement.
Quoi. Elle est engoncée dans ses propres, dans son propre aveuglement. Par exemple, quand il Jeanne, je sais pas si vous vous souvenez, il y a les plombs qui sautent, elle descend la maison, ouais. Elle va rallumer les plombs et elle surprend Marcel qui est en train de discuter avec Gloria dans la cuisine. Mélanie me dit, mais pendant le tournage, me dit, mais elle voit quand même qu'il drague un peu la petite, etc. Je dis non.
Elle pour veut moi, pas le voir, en fait.
Pour moi, elle, bien sûr, elle voit quelque chose, mais jamais elle va s'imaginer que son mari puisse être attiré par une gamine de 20 ans. Elle ne se pose même pas la question. Mais ces genres de situations, on en connaît mille. Et bien sûr qu'un mec de 50 ans va regarder une gamine de 20 ans. Évidemment. Il peut l'envisager. C'est pour ça qu'il le fera, bien sûr. Mais bien sûr que... Donc, si tu veux, tout ça participe en fait à l'architecture de ce personnage que j'aime beaucoup aussi, et je trouve que Mélanie livre une très très forte.
Mais c'est surtout le point de discordance avec les films de Adrian Lyne dont on parlait tout à l'heure. J'ai Clémence après, ce personnage-là dans ces films-là, typiquement, il était bienveillant. C'était la victime idéale. Bien C'était sûr. Celle vers laquelle l'empathie du spectateur allait de façon évidente. Et bien le sûr. Fait que toi, tu le tordes, voilà, c'est pour ça que je voulais souligner ça. Excuse-moi, Clémence, pardon. Je suis désolé.
Merci, Julien. On voit le soin que tu apportes, hein, à la psychologie des personnages et à mettre en valeur toutes les failles qu'ils peuvent avoir. Je vois aussi que, de manière récurrente, tu traites de sujets comme la folie, la schizophrénie, etc. Et là, c'est ce qu'on retrouve, hein, avec le personnage de Gloria, qui, au-delà de névrose classique dont tous les personnages peuvent avoir, elle, ça va quand même un petit peu plus loin. Ça devient d'où cette fascination pour la santé mentale ?
Alors, je pense qu'il y a le spectacle, de l'hystérie au cinéma. Bon, je sais que c'est encore pas très...
politiquement correct.
Politiquement correct de dire ça aujourd'hui, mais c'est-à-dire que j'ai grandi forcément en regardant beaucoup de VHS dans les années 80. Effectivement, le spectacle de l'hystérie féminine était un spectacle qui était très répandu à ce moment. Que ce soit bien ou mal, c'est pas la question, hein. Et donc finalement, bien sûr que j'ai eu des chocs comme ça en voyant, on parlait de Liver to Heaven. Bon, c'est un film que j'ai vu plus tard avec Gene Tierney, mais c'est sûr que Possession, enfin les films de Zulawski ou d'autres films comme ça m'ont profondément marqué, effrayé en me procurant énormément de plaisir, un plaisir fétichiste d'être dans une salle de cinéma et d'être témoin de choses comme ça absolument incroyables. Alors, je ne sais pas pourquoi ce thème revient de film en film. Cette Gloria revient de film en film.
Et c'est toujours Gloria aussi.
Oui.
Enfin, pas toujours, mais c'est vrai que c'est ça.
Très souvent.
Ouais. Alors, bon, je pense qu'il y a de la coquetterie, un peu de coquetterie. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, je reprends le nom de Gloria. Mais comme je reprends aussi le nom de Jeanne, de Paul, des belles-mères, des Bartels.
Oui, mais Gloria, c'est quand même.
Oui, mais
enfin,
c'est
pas. Je sais pas, il y a quand même un truc où tu te dis, oui, donc, entre. Alléluia et adoration, est-ce que...
Dans Calvaire, parce que dans Calvaire, oui. c'est Mark Steven,
bah voilà, donc,
c'est la femme perdue, c'est la femme qu'on ne voit jamais.
C'est ça, mais je sais pas, c'est une espèce de biographie, tu peux pas t'empêcher de poser la question.
Oui, quoi. Mais disons
pas
que...
Pas simplement en tant que critique, quoi, juste en tant que spectateur.
Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas moi qui vais y répondre, c'est-à-dire que moi, je peux simplement dire que je pense qu'il y a une thématique commune sur ces Gloria, donc il y a une folie rampante, il y a une volonté...
Sur la passion.
Ouais, il y a une volonté passionnelle, il y a une volonté d'être aimé, il y a une volonté venimeuse, il y a une volonté folle, il y a une volonté jusqu'au boutiste, il y a une volonté d'absolu. Je pense que la Gloria de Inexorable est probablement la plus nihiliste et la plus touchante. Moi, je trouve qu'elle est très très touchante, Alba, dans le contour, dans ses différentes facettes. Mais
elle est très jeune aussi.
Ouais. Oui. Tu veux dire la Alba?
Oui.
Oui.
Mais le personnage.
Le personnage.
Le personnage. Mais j'aime profondément voir le spectacle de personnages féminins ambivalents, ambigus, manipulateurs. J'aime pas dans la vie, mais au cinéma, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est sûr que je vois bien maintenant avec le corpus de films qu'il y a quelque chose qui se dessine par rapport à différents groupes. Tu vois, je pense aux belles-mères qui est vraiment un groupe particulier. Généralement, les belles-mères sont toujours des gens qui sont beaucoup plus bourgeois. Les Bartels sont beaucoup plus prolétaires. Paul, c'est vraiment une figure qui revient, hein, qui revient encore, qui tend vers une espèce de quête spirituelle ou une quête de justice, une quête aussi d'absolu. Puis il y a la Gloria qui emmène généralement les personnages de l'autre côté du verre. Mais bon, voilà, écoute, voilà, ça m'amuse, moi, je le fais vraiment pas en dessin, hein, c'est juste que c'est comme ça que ça vient, et puis ça crée ma petite géographie, hein. Il y a que vous qui voyez ça, non, les autres, tout le monde s'en fout.
Non, et puis c'est un peu comme Francis Weber, tu vois, avec Perrin, Campana, bah voilà, ça revient, c'est des trucs.
J'adore Weber, j'adore.
Mais là, il y a aussi un truc. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté dans le lâcher prise dans ton cinéma. Et j'ai l'impression, dans ce que j'ai jamais visité un de tes plateaux, mais en tout cas de ce que j'ai vu sur les tournages et tout, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. T'as une façon de gérer avec les acteurs où il y a un truc.
C'est
où,
les deux.
Ah, il y a les deux.
C'est les deux. C'est quelque chose de très, très, très méthodique.
Ah ouais?
Et ouais. Et d'accord. Après, c'est dans la méthode, vraiment dans la méthode, dans la rigueur, un lâcher prise complet.
C'est-à-dire la méthode, c'est-à-dire vous partez la préparation.
Mais c'est toujours une préparation d'artisan et de plasticien pratiquement. Mmh. C'est-à-dire que c'est le décor, c'est vraiment le décor. On investit le décor, on investit les textures, mmh. On pose la source jour nuit, la source une source, justifier la source toujours. Mmh. Et puis après c'est les acteurs. Et moi je m'aide beaucoup. Du décor et de la lumière, c'est-à-dire que ça influe directement sur ce qui va être révélé ou caché ou
sur l'écriture parfois.
Non, parce que en fait, l'écriture, je suis dyslexique grave. Enfin, ça va beaucoup mieux, mais j'ai toujours un problème d'écriture. Donc pour moi, écrire c'est vraiment une souffrance, c'est une vraie difficulté. Donc si tu veux, le truc c'est que je m'entoure. Vraiment toujours et de plus en plus d'ailleurs, et puis de manière beaucoup plus étroite et de beaucoup plus fine, mais pour moi le travail commence vraiment, mon travail visuel, mon travail de cinéaste commence vraiment à partir du moment où je fais la première version du storyboard, qui est comme une espèce de brouillon du film en cours, parce que là mon esprit pense autrement. Tu vois, tout s'enclenche, tout devient beaucoup plus visuel. Et puis après, il y a le décor et ça influe beaucoup. Mais dans cette rigueur-là, dans cette préparation-là, après, sur le plateau, il y a vraiment un lâcher prise. Complet.
Et que tu exiges d'ailleurs de la part de ton équipe.
De tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment l'instant.
Alors, à propos du décor, est-ce qu'on peut parler de cet incroyable château où vous avez tourné? Il est dans les Ardennes, c'est ça?
Ouais. Il est à Roumont. C'est le château de Monsieur Copé. Je salue. Non, alors écoute, ce château, très honnêtement, je l'ai vu en photo, en repérage, dans un bureau de repérage, et je le trouvais incroyable, mais très très grand, c'est quand même 5000 mètres carrés. Donc je suis parti là, j'étais avec mon directeur artistique, on est parti avec les repéreurs, on est arrivé là, moi j'ai cru que c'était pas possible, c'est trop grand. Et puis surtout, on était quand même, on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire le film, donc je pensais pas que je pouvais me l'offrir, ce château. C'était pas possible, parce que moi, je veux investir les pièces, je veux investir les textures, les draps, enfin les couleurs, les machins. Et donc après, c'est vraiment en discutant avec Emmanuel de Meulemeester, mon collaborateur, il m'a dit non, mais écoute, on va le garder, c'est vraiment idéal, on va soustraire. Et après, c'était simplement organiser l'espace, tu vois, pour permettre à une compréhension immédiate au spectateur. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai revu par exemple des films comme Rebecca ou Shining, tu vois, où tu vois bien dans ces grandes bâtisses tout de suite le génie de ces films, c'est en 10 minutes, un quart d'heure, t'as compris la géographie des lieux. Ça a l'air simple comme ça, mais je peux te dire, crois-moi, c'est pas évident.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Yeah. Il y a un truc en fait dont on n'a pas forcément parlé, et ce qui est assez intéressant sur le film, c'est le côté exercice de style en fait, oui. Justement, voilà, c'est-à-dire que en fait on a parlé du fait que c'est un thriller, alors érotique, ça c'est, il y en a un peu, mais c'est discutable en fait, parce que c'est pas vraiment le sens dans lequel on va. Toi, t'es très cinéphile, ouais. Donc en fait, on en a un peu parlé. Tu viens de citer Rebecca. Il y a du Hitchcock là-dedans. Il y a du
Giallo, ouais.
Ouais, du Giallo, voilà, du Argento.
Monsieur de Mac aussi, surtout. Je pense vraiment à Staircase, The Spinal Staircase. Tu vois.
Mais en fait, il y a des plaisirs de cinéma, si tu veux, qui sont, pour le coup, je trouve hyper identifiables tout de suite. C'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse au langage du cinéma, quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses. En fait, il y a tout un tas de petits trucs que tu voulais mettre en fait dans le film. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi en fait de l'aborder sous cet angle-là, en fait, de se dire tiens, moi, je vais faire mon transtrave. Tiens, je vais faire mon, tu vois, mon.
C'est, je raisonne jamais comme ça.
Ouais, je sais, mais tu vois, enfin.
Je raisonne jamais comme ça. À aucun moment, je me dis je vais faire un transtrave parce que je veux faire un transtrave, ou alors, tu vois, enfin, j'ai vraiment deux vies. Alors là, il y a la vie de cinéphile qui est une vie intense et passionnée, mais ma vie de cinéaste, c'est autre chose. Alors forcément, elle est poreuse. Ma vie de cinéaste, forcément, ma vie de cinéphile déteint sur ma vie de cinéaste. Mais ici, j'avais vraiment dans l'exercice de style de faire un film qui dissimule une tension presque théâtrale, tu vois, unité de temps, de lieu, d'action, quatre personnages, une construction, une écriture théâtrale mais visuelle, on va dire, qui révèle, tu vois, les mensonges des personnages, etc. J'avais en référent et les films que j'ai cités, le film de John M. Stoll et le film de Duvivier. J'avais aussi certains films de Gaucha, tu vois, avec les films de fantômes, de revenants, qui cristallisent en fait tous les péchés et les mensonges des personnages. Donc voilà. Mais en même temps, je me suis pas, je fais ça dans mes Ardennes, avec des matières qui ramènent et des décors qui ramènent vraiment à la vérité de altérer, hein. Parce que c'est pas du réalisme cru, quoi, mais qui ramène à quelque chose de très très identifiable, de très marqué, tu vois. Ouais. Et donc l'exercice de style, il est là, mais jamais je me dis ah, je vais faire un transtrave pour faire un transtrave pour faire le malin. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi le transtrave à ce moment-là dans le film, on voit bien que c'est le moment où elle pénètre dans la maison, où le rapport de force s'inverse. Mmh. C'est-à-dire qu'elle devient puissante. Je me permets ce transtrave parce que pour moi, il est, encore une fois, cohérent et il cristallise quelque chose. Mmh. C'est un langage. Le cinéma, et vous le savez mieux que personne parce que vous le défendez corps et à cri, aujourd'hui, malheureusement, les gens ne voient plus le langage du cinéma. C'est-à-dire que plus personne ne parle de mise en scène. Mmh. On s'en fout de mise en scène. Il n'y a que le sujet ou les contours du sujet qui priment. Le langage, pour moi, c'est une écriture, c'est un langage.
Alors, juste une petite précision. Pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément le vocabulaire du cinéma, transtrave, ça veut dire travelling.
Oui, c'est un
travelling compensé, en fait.
C'est travelling compensé. C'est-à-dire que tu fais un travelling, tu déplaces la caméra physiquement dans l'espace, mais tu compenses, en fait, ce déplacement dans l'espace par une transformation de la perception optique, en fait, de cet espace.
Ouais.
Je crois que j'ai fait une explication qui est encore plus compliquée.
Non, mais c'est un effet de vertige, de toute façon, ouais. qui est assez connu maintenant au cinéma.
On voit dans les Dents de la Mer, par exemple.
Voilà.
Dents de la Mer, dans Vertigo.
Mais la raison pour laquelle je te demandais ça, c'est aussi que l'exercice de style permet, justement, en fait, d'être plus cérébral, comme tu dis, puisque t'es obligé de réfléchir un petit peu à la construction de ton ouais. pas seulement de ton récit, mais de ta forme. Et c'est pour ça que je me demandais justement si, pour le coup, cette fois-là, t'avais abordé ça un peu différemment, parce que c'est évident que chez toi, la forme, en fait, si tu veux, elle vient de ce qu'il y a sur la matière, en fait, sur le plateau, quoi.
Oui, complètement. En tout cas, je me contrains à faire ça. Alors, parfois, je lis des critiques sur certains de mes films. Bon, j'essaie de moins en moins, surtout chez certains canards, où je vois qu'il y a une incompréhension de ça complète. C'est-à-dire que les gens pensent que je fais du zèle ou je fais le poseur.
C'est des affaîtris, ouais.
Pour moi, rien n'est affaîtri. Je peux tout justifier, vraiment, toujours.
C'est-à-dire qu'on me reproche. Quand on parle du transtrave ou ce genre de choses.
Ou du transtrave, ou tu vois, par exemple, la caméra branlante dans Adoration. Ben, ouais. Les contours du jeune Paul dans Adoration, au début, il est très fébrile. Mmh. Et au fur et à mesure que le film avance, le fur et à mesure, son intime conviction est de plus en plus stable. Il bascule lui aussi, et puis ça termine par ce plan avec les oiseaux qui est d'une stabilité, et parce qu'il est appelé autrement. Donc il y a un mouvement. Donc si tu veux, le mouvement de la caméra épouse à mon avis. En
mais il y a ça aussi dans Inexorable. Hein, ceci étant dit, il y a ce moment où elle confronte pour le coup et qu'elle révèle vraiment son visage Gloria dans la scène de jardin, en fait, où d'un coup elle s'en va, elle laisse. Sûr. Où là c'est évident, en fait, que le mouvement de caméra hyper stable, hyper beau, et tout, et qui suit le mouvement de Gloria, qui est pour le coup déterminé, quoi.
Je suis complètement d'accord. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas la forme contre le fond, quoi. Mmh. C'est la forme avec le fond. Mmh. C'est la forme qui traverse le fond. C'est du cinéma, bordel. Je fais pas de la littérature. Mmh. Le cinéma, ça a une écriture particulière. Et je vais voir des films tous les jours. Tous les jours, je vais au cinéma. Je vois beaucoup, beaucoup de films. Et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que je vois des gens qui ont des sujets, bah, beaucoup, hein. Bah, après, ça arrive qu'il y a des trucs bien. Mais je vois des sujets, je vois des trucs, mais tu dis, écrit quoi, enfin, ou fait, enfin, je sais pas,
raconte, mais des adverbes,
fait un
quoi.
Podcast quoi, voilà, mais je comprends pas, tu vois,
alors puisque tout est justifié, il y a le choix de la saison aussi, c'est-à-dire que, et c'est un film d'été, par exemple Calvaire, c'était un film d'hiver, c'était une évidence quoi, et là il y a un truc sur l'été quoi, déjà il y a évidemment toujours le côté un peu pastoral avec ce retour à une espèce de nature un peu brute. Qui est travaillé là-dedans et tout, mais il y a aussi ce côté extrêmement lumineux et solaire en fait.
Donc, ouais, alors ça, je m'en suis accommodé.
Ah bon, c'est pas une volonté honnête du tout à l'écriture.
On devait tourner au printemps.
Je croyais que c'était logique. Ah d'accord.
Okay. On a été empêché par le confinement, le premier confinement au mois de mars. Tu
vois, mais Adoration, pour moi, c'était un film de printemps. Mais
c'est un film d'été. Ça,
ah,
c'était vraiment
okay,
un film d'été.
Ok, bon, je suis complètement à la masse, mais laisse tomber, quoi.
Mais le truc, c'est que
c'est un peu grave.
Tu veux aller écrire pour les canards qui.
On devait tourner au printemps.
D'accord, ok.
Et donc, il y avait justement cette idée de renouveau, cette idée-là qui était importante pour moi.
Du coup, j'ai pas du tout perçu ça comme ça, moi.
Voilà, bon, c'est pas très, très grave parce qu'on a été arrêté. On était à 2 semaines du tournage. On a été arrêté au mois de mars par le confinement et on a repris au mois de juillet. Après les 3 mois de premier confinement, il y a 2 ans.
J'avais l'impression que c'était tellement assumé, moi, notamment avec l'herbe devant le château et tout, ce côté, les blés qui sont déjà... Enfin, j'avais ça en tête, quoi.
Non, mais alors ça, tu vois, par exemple, c'est-à-dire que c'est l'opportunisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc je suis contraint de tourner au mois de juillet à cause du confinement. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand je retourne sur le décor et que je vois les hautes herbes, je me dis, mais je vais m'en servir. C'est-à-dire, pour moi, ça raconte quelque chose.
Ben oui.
Tu vois, ça raconte quelque chose.
Y compris l'orage, tu vois. Voilà. Pour moi, c'est la scène de l'orage, c'était un truc, c'était un événement d'été, quoi.
Oui.
Plus tard dans le film, quoi. Tu vois.
Ça, c'était préparé.
Ouais.
Ça, c'est préparé. Mais je reviens 2 secondes aux herbes.
Vas-y, pardon.
Aux herbes, parce que les herbes, c'est très, tu vois, tu parlais de maîtrise et de laisser aller. C'est-à-dire que c'est dans l'extrême maîtrise de ce qui est préparé, à un moment donné, arrive un incident comme les herbes. Ça peut paraître con, hein, les herbes, machin, mais c'est super important parce que tout de suite, le spectateur n'y pense même pas, mais se dit, OK, c'est sauvage au début, et puis à un moment donné, il y a le temps qui passe, tu vois, on fait des ballots, on coupe l'herbe, tout ça raconte quelque chose sur la vérité, en fait, de l'instant. C'est comme cette scène que j'aime beaucoup aussi, qui était très structurée, sur le rapport entre Gloria et Marcel, où ils sont tous les deux en train de parler, en train de boire un verre de vin, et il y a la nuit qui tombe. Tout ça, tu vois, c'est très compliqué à faire parce que c'était dans le plan des changements de lumière. Donc, il y avait 4 étapes. Benoît, c'était compliqué parce que il ne voulait pas comprendre la technicité de ce truc-là. Il comprenait pas pourquoi on s'arrêtait, pourquoi changer de caméra, pourquoi on bougeait les lumières. Mais tu vois bien que ce qui m'intéresse, c'est que d'un coup, dans la discussion intime entre 2 personnages, à un moment donné, comme ça nous arrive à tous, on discute, la nuit tombe, on se lève, on allume la lumière. Mais ça, le spectateur s'en rend, lambda, hein, je veux dire, le spectateur ne s'en rend même pas compte. Et c'est ça, c'est comment intégrer toujours les éléments de la vie, du quotidien, à l'histoire. Et qu'est-ce que ça met en lumière ? Ça chute, tous les deux, ils deviennent intimes, ils sont plongés dans une intimité, ils sont tous les deux en silhouette, et puis ils rallument quelque chose, tu vois. Donc si tu veux, tout, et c'est comme tout ça, en fait, contribue à enrichir un script qui n'est qu'un script.
Mais ce qui est marrant d'ailleurs, en plus, avec justement pour parler des herbes, c'est que du coup, tu as cette scène où Gloria est avec la gamine dont le nom m'échappe. Là. Je suis désolé à l'instant. Lucie et elles sont justement dans les herbes. Et derrière, tu as cette machine là qui est en train de tout raser, où il y a un truc sur le danger sous-jacent. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça et je me suis dit, il faut pas qu'elle reste là.
Mais tout à fait. C'est-à-dire que la moissonneuse, elle est là-bas.
Et ça, c'était pas au scénario, alors.
Non.
C'est un truc que t'as, d'accord.
Non, bien sûr. La moissonneuse, elle est là-bas. Je demande machin à ce que la moissonneuse vienne là-bas. Et donc, si tu veux, on compose. Mais on compose dans l'instant. C'est-à-dire que quand c'est très structuré, et j'ai l'impression que c'est comme ça que j'ai l'impression que j'arrive à être plus, que mon geste est plus, et a plus de dextérité, en fait, en préparant énormément et en étant poreux à l'instant, à ce que je peux utiliser dans l'instant pour juste améliorer, ou en tout cas essayer d'améliorer la scène et le film. Et donc n'être jamais dans quelque chose de, en tout cas le moins possible, dans quelque chose de gratuit. C'est-à-dire que ce qui est beau, je m'en fous. Moi, je déteste ce qui est joli. Le joli, je hais, je supporte pas. C'est joli, c'est horrible, le joli, c'est dégueulasse, quoi. Non, j'aime le beau. Tu vois, donc c'est le beau, c'est comment t'arrives à flirter avec le beau, quoi.
Moi, il y a un truc que j'aime bien dans ton cinéma. Enfin, c'est un truc que je recherche toujours dans ton cinéma parce que je pense que t'es un des seuls à vraiment y arriver de cette manière-là, en plus très spécifiquement. Et en fait, je me suis demandé, tiens, quand est-ce que ça va arriver? Je t'avoue, pendant le film, je me disais, mais il va le faire, il va pas le faire, tu vois. C'est cette rupture de ton. Toujours, tu vois.
Et cette étrangeté, en fait.
Ouais, c'est hyper délicate. C'est-à-dire, t'as plus vraiment de trucs à la Buñuel aujourd'hui, en fait, dans le cinéma. Plus personne cherche à avoir cette espèce de moment, comment dire, poétique, surréaliste et tout, ouais, quoi. Ouais. Et toi, t'arrives à le faire en général. Alors, on en a souvent parlé, hein, entre nous. Ça me manquait dans Message from the King. Tu m'avais dit, mais j'en ai tourné des scènes comme ça, mais c'est juste qu'elles sont pas gardées par le montage, voilà. Là, je me disais, tiens, comme il essaye de faire un film entre guillemets normal, je vais mettre vraiment les guillemets parce que faut quand même préciser que oui, c'est à la fois un film qui est plus ouvert, mais aussi quand même un film de Fabrice Duvels, quoi, que les choses soient quand même assez claires, quoi.
Puis je pense voilà, que
c'est...
prévenu.
Voilà, mais et puis c'est assez évident, hein, de la façon dont on en parle depuis tout à l'heure, quoi. Il y a ce moment, en fait, ce moment de l'anniversaire, en fait, quand elle monte sur scène et que, en gros, elle leur dit, allez vous faire foutre, en gros, mais
par la danse.
Ouais, par la danse, quoi. Et je me demandais, en fait, si tu disais, est-ce que je me le permets, est-ce que je me le permets pas? Est-ce que j'en mets plus, est-ce que j'en mets moins, et comment ça se passe aussi au montage, ce genre de séquence, parce que je pense qu'il y a toujours le, c'est là pour le coup, c'est très, ça doit être très détaillé, j'imagine, en fait,
ouais,
pour
ouais.
Que ça soit, enfin, ça fonctionne vraiment du feu de Dieu, quoi.
Bah, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tu vois des éléments factuels très simples, une fête d'anniversaire, une gamine qu'on a investie, on connaît plus ou moins les tenants, les aboutissants de cette scène d'anniversaire, on sait qu'elle va arriver à un point charnière du film et un point parce de rupture.
On en parle, c'est un enjeu.
C'est
quoi.
Le lendemain, tu vois, de la grande scène sous la pluie et de la rupture et la révélation du mensonge. Donc, cette séquence, je me demande toujours comment je peux la traverser, donner un point de vue poétique. Juste un point de vue poétique. Donc, une altération de la réalité. Suspendre le temps, quoi. Je me demande toujours comment je peux faire ça. Pour pas être dans le factuel, dans le réel, tu vois, dans, qui m'emmerde. Donc, j'ai l'idée, à un moment donné, d'une scène qui soit très violente. Donc un état de possession, donc une transmission. La rage de Gloria est transmise à cette jeune femme. Aussi la perte de l'innocence. Cette jeune fille n'est plus une enfant à ce moment-là. Elle est contaminée par le mal, par le mensonge, par le fait d'être adulte. Donc l'ambiguïté, le trouble. Tu vois, il y a pas de blanc, rien n'est blanc, rien n'est noir. Et après, c'est le point de vue, c'est-à-dire que c'est, je me dis, bon, ben, comment je peux épouser, renouer avec la thématique du film, l'animal totem du film, c'est le chien. Donc je me dis, ben, du heavy metal, donc j'en parle à mon camarade Vincent Cahet, mon musicien, que je connais, tu vois, depuis perpète. Je dis à Vincent, ben, il faudrait un truc hardcore, heavy metal, machin. Il me fait une proposition, je trouve ça bien, mais je dis, ben, j'aimerais bien qu'il y ait des grommelots, qu'il y a de la rage, quoi, il y a une animalité. Il fait quelque chose avec ses copains. Et je dis, ok, c'est mortel. Après, comment tu le retranscris visuellement? Et là, j'appelle mon vieux copain Damien Jallet, qui est chorégraphe aujourd'hui, qui est un célèbre chorégraphe et avec qui j'étais à l'école à l'INSAS à Bruxelles. Et Damien, je lui dis, bah, viens m'aider, j'aurais vraiment besoin que tu m'aides, etc. Il avait fait la chorégraphie du remake de Suspiria. Donc Damien me dit, ok, super, je lui fais écouter la musique, il s'amuse beaucoup, il fait le truc avec la gamine assimile très très vite, et puis quand on le fait, je le fais en plan séquence pratiquement, sur le moment, tout le monde s'est dit, ouais, putain, ça, c'est dément, quoi. Il y a un truc qui se passe, qui est incroyable, et surtout ce que ça renvoie après aux personnages, aux acteurs, quoi.
Et c'est ça qui est vachement bien, en fait, aussi dans le film, c'est que par rapport au point de vue du spectateur, c'est que la scène, elle pourrait totalement tomber à plat,
ouais.
Mais t'as le contrepoint, c'est-à-dire que t'as, en fait, tu l'assimiles déjà dans le récit, c'est-à-dire qu'en gros, les autres la regardent en disant, mais ils la comprennent pas, qu'est-ce qui lui arrive, tu veux. Donc ce qui fait que tu précèdes éventuellement potentiellement ce que le spectateur pourra ressentir, parce que ce genre de scène c'est vraiment sans filet quoi, c'est-à-dire que pour moi même si c'est très travaillé, très construit, très réfléchi, ça passe ou ça casse quoi, c'est vraiment
mais je pense qu'elle a une cohérence, elle a une vraie cohérence, c'est-à-dire qu'elle a une cohérence dramaturgique, c'est-à-dire que
personne ne l'a questionné chez les financiers et tout du coup.
Ah bah, les financiers n'ont pas vu, elle danse sur du heavy metal, etc. Ah ouais. Non, j'avais une fête d'anniversaire, la petite danse, fait son spectacle de l'année, basta, tu vois. Enfin, et donc à un moment donné, après c'est toujours la même chose, un script c'est un script, mais c'est comment qu'est-ce que t'en fais, qu'est-ce que t'en fais, et surtout dans un moment qui cristallise en fait tout. À ce moment-là, c'est un moment qui cristallise absolument la chute irréversible de cette famille, inexorable de cette famille quoi.
D'où le titre.
Voilà. Quel talent quand même, Fabrice Duval. C'est quand même très étonnant quoi. On a encore du temps les amis ou un peu.
Moi, j'aimerais parler un peu du montage. Parce que en fait c'est un truc dont on parle rarement avec toi finalement, qui pourtant en fait je pense que c'est quand même important parce que justement en fait il y a un espèce d'équilibre très gracieux dans ton cinéma qui à mon avis faut atteindre voilà, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui reste en général sur qu'est-ce que toi t'as envie de dévoiler ou pas, par exemple c'est assez clair hein, quelles sont les vraies relations entre belle-mère et Gloria par exemple, c'est assez évident et tout, mais ça reste quand même en suspens, c'est-à-dire que dans un film américain soit ça aurait zappé parce que ça aurait pas été la vraie raison en fait dire, soit en fait en gros ça aurait été beaucoup plus explicite, beaucoup plus tu vois, je veux dire marqué au stabilo, ce genre de choses. Le film se termine un peu aussi sur ce souffle en fait, coupé sur ces choses là, donc qu'est-ce que tu retiens, est-ce qu'il y avait une épilogue, est-ce que tu coupes des trucs, est-ce que tu gardes. Tu vois ce que je veux dire en fait quand tu resserres le film,
tu
quoi.
Gommes, quoi.
C'était mon film avec Calvert le plus facile à monter.
D'accord.
C'est-à-dire que après bon, j'ai ma camarade de montage et ma monteuse hein, qui est Anne-Laure Guégan, avec qui je travaille depuis longtemps, à qui j'ai une confiance absolue totale, qui travaille beaucoup, qui vraiment gère en fait toute la direction un peu artistique de la post-production. Et au montage, je dois dire que c'était très clair, c'était très dessiné en fait. Autant tu vois un film comme Adoration, j'ai laissé beaucoup de choses. Il y a eu énormément de modelage parce que le film était dans une espèce de brouillard et de pêche à l'émotion, à l'instant. Ici, il y avait quelque chose de très 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 cadré. Donc, on a monté le film en 3 semaines. Après, on a affiné le temps, etc. Donc on a beaucoup beaucoup travaillé sur encore une fois la construction de la tension, sur la mise en route, sur la mise en départ, sur l'intimité des personnages, sur le côté plus large, et puis doucement resserrer les taux. Et pour moi, il était fondamental d'attraper le spectateur et de plus lâcher quoi, tu vois, de plus lâcher jusqu'au bout.
Toutefois, tu fais quand même rentrer le genre dans ton style à toi, complètement, quoi. C'est-à-dire
que je me sers du genre, moi.
Ouais.
Moi, je me sers du genre. Je suis un amoureux inconditionnel du genre. On a déjà parlé sur cette appellation de genre qui est complètement débile, etc.
Je préfère appeler ça le cinéma d'exploitation, mais
on sait bien que le cinéma est forcément genré.
Oui, bien sûr.
Mais bon, c'est comme on va pas opposer. Les choses, on a déjà parlé, on s'en fout. Mais non, c'est-à-dire, je me sers du cinéma de genre, du cinéma en tout cas genré, du cinéma d'exploitation, de certains types de cinéma, pour arriver à m'exprimer au mieux, quoi. Et avec mon amour infini du cinéma. Voilà. Mais en essayant d'être très très personnel.
Mais en même temps, les questions, elles se posent sur ces choses-là, parce que tout bêtement, en fait, si tu veux, tu dis que tu fais pas du cinéma réaliste, et ce qui est vrai, mais je pense qu'en fait, dans l'esprit des gens, le naturalisme peut évoquer le réalisme entre guillemets, c'est-à-dire que en gros il y a quelque chose de toujours très cru dans ta façon d'aborder les choses dans ton cinéma,
tournant en décor naturel aussi,
voilà, le 16 mm quand même qui accentue aussi cet aspect-là dans l'esprit des gens, parce que c'est une texture en fait qui donne ça quoi, et en même temps pour le coup c'est pour ça qu'on parle du montage, c'est pour ça qu'on parle de la lumière, c'est pour ça qu'on parle de tout ça, parce que c'est très 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 travaillé en fait, c'est très très pour le coup c'est plus du réalisme en fait.
Je fais rien de neuf, tu sais, je travaille comme les artisans, comme les anciens hein. Enfin je veux dire, moi je suis sidéré de voir, je donne cours ici et là, tu vois, dans des grandes écoles ici là, je suis toujours sidéré de voir à quel point les étudiants, ils n'ont aucune idée de la lumière, aucune réflexion sur la lumière. La lumière n'est pas un enjeu pour eux. Je dis, mais les gars, mais vous rendez compte, regardez le cinéma que vous aimez chez Renoir, bah regardez la lumière chez Renoir, regardez la lumière chez Argento, voyez un peu comment ils utilisent la lumière, comment ils utilisent la lumière, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle est. C'est fou de voir. Bon, après, moi, les étudiants, il faut les emmener au musée, il faut les voir Caravage et Goya, ils apprennent un peu ce que c'est la putain de lumière. Bah, c'est complètement fou, c'est hallucinant, cette déperdition. Il y a plus que le sujet. Enfin, bon, après, c'est un autre débat. Et
je sais pas s'il y a une déperdition. Je crois que ça.
Esthétique.
Ah ouais, tu crois.
Ouais, évidemment qu'il y a une déperdition esthétique. Tu le vois bien dans les films que tu vois. Chez quelques grands maîtres. Tu vois, il y en a toujours, évidemment. Mm. Et puis, je veux pas faire c'était mieux avant. Hein, c'est pas ça du tout. C'est simplement que sur la fabrication des films, c'est sûr que quand tu vois un film comme Nightmare Alley, par exemple, vous avez vu la gueule du film, ce qu'il raconte, l'homogénéité du sujet.
Tu l'as vu en noir et blanc?
J'ai vu les trois, j'ai vu les deux, je l'ai vu plein de fois le film. Le film m'a obsédé à un moment donné.
Il est incroyable.
Mais les gens, quand tu parles de ce film-là, certaines personnes, ils voient rien, ils voient pas.
Oui, mais c'est le point de vue, c'est le point de vue des gens, mais le film en soi, il est hyper travaillé, quoi. Mais en fait, c'est aussi un truc qui est intéressant peut-être à pointer du doigt, c'est que tu dis que tu donnes des cours. T'es cinéaste, il y a aussi en fait, t'as à cœur d'aller interviewer pas mal de gens, en fait, de travailler. Donc il y a vraiment aussi dans ta cinéphilie, il y a pas de contamination pour toi, il y a quand même une contamination quand même, mine de rien.
Voilà, justement, je voulais poser parce que tu parlais de Del Toro, t'as fait une super interview. En fait, Fabrice, pour les auditeurs qui le savent pas, tu t'animes une émission régulièrement sur BTV qui s'appelle Home Cinéma, dans laquelle tu reçois des acteurs, souvent des réalisateurs, voilà, et c'est des. Souvent, fréquemment, c'est des longues interviews. Il y a un épisode d'ailleurs avec Poulvord qui est incroyable, hyper émouvant et tout. Un épisode avec Del Toro qui est hallucinant aussi, qui dure une heure et demie, comme ça. Ouais. Enfin, c'est génial, quoi. C'est disponible sur YouTube. La plupart du temps. Et moi, en voyant ça aussi, en étant un spectateur assidu de Mcima, je ne peux pas croire que ces rencontres-là, ces discussions profondes avec ces artistes-là, en plus dans ce contexte très structuré qui est l'exercice de l'interview et tout, n'infuse pas en fait dans ton travail de cinéaste.
Je suis complètement d'accord avec ça. Tu vois, par exemple, j'ai vu il y a quelques années maintenant, mais par exemple un cinéaste que je ne connaissais pas bien, Jacques Doyon, et j'avais préparé l'émission comme je le fais toujours, et j'avais vu pratiquement tous ses films, et j'avais été très très fortement marqué par le cinéma de Doyon, vraiment. Hein. Mmh. Et je me souviens de l'entretien, c'est un homme qui a dédié sa vie au cinéma avec un amour, une passion totale, totale. Donc il est vraiment très très intéressant. Et il m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il m'a dit, parce qu'on parlait du sujet, parce que tu vois, les films de Doyon tournent toujours autour d'un acteur ou d'une actrice, d'un jeune acteur. Il a le nez pour aller chercher des gens dont il fait le portrait. Mmh. Et il m'a dit un truc, donc il me dit, si tu réussis le portrait, tu réussis le film. Et ça m'a profondément accompagné. C'est-à-dire que, voilà, c'est faire le portrait de quelqu'un. Bon, alors, le cinéma de Doyon est très, très loin de mon propre cinéma, bien sûr. Mais j'ai aimé cette idée de portrait, en fait. C'est le portrait de quelqu'un. Donc, c'est les contours, les différentes facettes d'un personnage. Et c'est le charger. Le charger d'ambiguïté, de multiplicité, de différents contours, d'aspérité, etc. Et après, c'est développer les choses. Mais finalement, tu vois bien que même dans... On parlait de Nightmare Alley, le personnage de Bradley Cooper, le personnage est fou. Mm. Est fou. Et en plus, il y a une porosité au tarot et aux 22 cartes majeures du tarot. Tu vois, quand tu cherches un peu dans le film, tu t'aperçois qu'il y a toutes les facettes qui sont là, quoi. Un peu comme dans le film de Paul Schrader. Le dernier film de Paul Schrader, c'est la même chose. C'est vraiment fascinant, hein. Donc c'est ça, c'est que finalement, c'est toujours un portrait qu'on fait, quel que ce soit Paul Schrader, Del Toro ou Doyon, mais je trouvais ça vraiment, ça a résonné beaucoup en moi. Et d'autres interviews aussi, hein, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant, j'apprends beaucoup moi, j'apprends beaucoup quand je donne cours, j'apprends beaucoup quand je rencontre des gens qui a priori sont très très loin de mon cinéma, mais c'est pas grave, moi j'ai une curiosité, je suis un gamin qui a fait les jésuites, j'ai été... non mais c'est ça, les jésuites c'est ça, les jésuites c'est... bon c'est ça et autre chose, mais c'est au moins en tout cas... une curiosité. On t'apprend la curiosité. Et je suis toujours étonné de voir des cinéastes qui n'ont aucune curiosité.
Oui, mais t'arrives aussi à un stade où, à ton âge, justement, à 50 ans, tu as peut-être aussi envie de transmettre. Ouais, c'est ça le truc.
Ouais, c'est super important pour moi. Super important de plus en plus. Vraiment, j'adore ça. C'est très, très, ça devient très important. Mm. Et surtout le cinéma. Voilà, c'est fondamental, c'est vraiment fondamental, c'est important, je pense. Il faut.
Donc, grande question.
Moi, j'ai surtout, comment est-ce que tu vends ton film? Alors, parce que là, il faut. Je te demandais, voilà, c'est quoi Inexorable, en fait, pour.
L'affiche est moins bien que celle de. L'adoration.
Je sais, mais.
Je suis pas un fan, moi, de l'affiche.
Mais la proposition est plus claire.
Certes.
Donc, comment tu.
J'ai besoin d'une proposition claire. Et crois-moi, ça a été un vrai crève-cœur, mais je me range à cette idée. Il faut une proposition claire, c'est-à-dire que l'affiche d'adoration, c'est un film d'animation, c'est quoi, qu'est-ce que c'est, tu vois. Et voilà, les gens savent pas. Donc au moins là, j'ai Benoît, j'ai des teintes, j'ai une promesse de thriller.
Et on va se faire gauler, quoi. Voilà. Il est en train de regarder. Ouais.
J'espère avoir une affiche collector de Tony Stella, tu vois, qui voilà. Mais voilà. On verra bien comment ça se passe. Mais pour moi, je vends le film en disant c'est un film noir, un film qui ne fait que des victimes et qui distille une vraie putain de tension.
Aussi simple que ça.
Basta.
Tout en restant du duels.
Ah oui, mais ça.
Tu peux pas
ça,
le dire.
Oui, mais ça,
et nous, on le dit parce qu'en fait, c'est ça qui est important.
C'est marrant cette volonté de vouloir toucher aussi le public, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une.
Mais c'est une industrie, Julien.
Oui, non. Alors, en dehors.
Il va t'engueuler. Attends, il va t'engueuler.
Non, mais en dehors du fait que ce soit une industrie, Fabrice, le truc, c'est que. Est-ce que justement t'as envie de toucher le public en dehors du fait que ce soit une industrie? Et quand on fait des films aussi singuliers qu'Adoration et tout.
Mais oui, mais c'est parce que aussi. Mais si tu vois, je divise fortement toujours. C'est-à-dire que tu vois bien qu'il y a quand même tout un pan de la presse.
Mais ça, on s'en fout.
Oui, mais enfin, c'est quand
toi,
même.
Peut-être pas, mais ce que j'ai envie de dire, en fait, si tu veux, c'est. Excuse-moi, je te coupe deux secondes, mais là, pour le coup, en fait, si tu veux, les voix singulières, c'est moi, c'est ce que je recherche au cinéma, personnellement, en tout cas. Hein. C'est-à-dire que j'en ai un peu marre de me taper
oui,
le même
si
film chaque semaine.
Mais s'ils étaient beaucoup plus comme toi, ça irait. Oui. Mais là, tu vois, par exemple, je vois bien qu'il y a quand même des. Il y a tout. Enfin, surtout en France, parce que la France, c'est quand même des obédiences critiques très, très différentes. Oui. Et puis surtout, tu vois, c'est idéologique, quoi. C'est vraiment de l'idéologie, c'est de la politique, quoi. C'est vraiment de la politique, en fait. Donc c'est sûr que, bah voilà, moi je dois être un. Toujours, on se dit, mais peut-être que ça changera un jour, mais je suis toujours un peu j'ai toujours l'impression, tu vois, dans la presse bien pensante, là, un peu de gauche, là, c'est difficile.
Attention, tu commences à ressembler à Castaldi, là.
Non, mais tu vois, ils m'aiment pas beaucoup. Et parfois, je veux voir des films qu'ils ont sens, très honnêtement, et je les vois, et parfois, je rencontre même les réalisateurs et les réalisatrices, mais je suis parfois très, très étonné de ce que je vois, quoi. Alors, peut-être que c'est moi, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Je continue mon chemin, mais en même temps, je ne peux pas ne pas me poser la question du public. C'est impossible. Je dois me poser la question du public.
Mais toutefois, on parle de deux choses différentes.
Dans l'industrie, hein. Mais en tant qu'artiste.
Mais les deux.
Ça, les deux, d'accord.
Je dois me poser la question du public.
Quand tu fais un film comme Adoration.
Je me pose toujours la question du public.
D'accord.
Après.
J'avais l'impression que tu en faisais abstraction, moi, sur un film justement comme celui-ci. T'étais dans ton.
Mais c'est marrant parce que on va peut-être le raconter, ça. C'était un peu marrant la première fois qu'on s'est rencontré avec Fabrice. C'était à Sitges, je me rappelle très bien. Et en fait, il était étonné qu'on ait aimé le film. T'étais vraiment étonné qu'on aime le film. Nous, on était à Mad Movies à l'époque. Et en gros, on t'a dit, bah si, pourquoi en fait c'est... Et tu nous as dit, mais parce que vous avez une approche, plus bourrine et tout ça, etc. etc. Je sais plus c'était quoi exactement
Et je me rappelle que tu nous avais allumé sur Yannick Davant déjà. En entrant, on n'est pas Yannick.
Non, mais en plus.
Des casseroles, j'en ai.
Non, c'est pas une casserole, mais c'est intéressant. Pourquoi je signale ça? C'est parce qu'en fait, si tu veux, ce qui est assez marrant, mais peut-être ça colle aussi avec l'idée que justement toi, tu es dans les deux camps, on va dire entre guillemets, c'est que c'est vachement important pour toi, apparemment, ce qu'on va dire de ton cinéma, même si finalement c'est pas si important que ça quand tu fais ton film. Ce que je veux dire par là, c'est que tu parles souvent de ce que les critiques ont pensé du film. Or, qu'est-ce que pas? J'ai envie de dire. On s'en fout, et puis surtout, en fait, je veux dire, que ce soit nous, que ce soit les autres, hein, c'est vraiment pour ça que je dis ça, et surtout, en fait, eux, ils s'en rappelleront pas, tu vois, de ce qu'ils ont pensé.
Il y a plein de cinéastes qui arrivent à en faire abstraction, mais c'est pas ton cas, en fait. Mais je pense que c'est le côté cinéphile aussi.
Oui,
ça.
Mais ça va mieux, hein, ça va mieux. Non, ça va mieux, et puis surtout, j'essaie d'être moins con, tu vois, vraiment. J'essaie de prendre.
C'est pas de la connerie, hein, c'est normal
de prendre
moins
ça personnellement, oui, voilà, j'essaie d'avancer. J'essaie d'avancer. C'est toujours un film, puis surtout quand je suis en promo d'un film, j'essaie toujours d'avoir un autre dans les tuyaux pour me dire allez, ça je vis les
choses pas grave.
Je vis les choses un peu moins mal si ça se passe pas bien. Ici, j'aimerais bien, je pense que le film est tout à fait recevable et tout à fait
Bien entendu.
Oui, il est voilà, je vois vraiment pas pourquoi parfois j'entends des, mais c'est pas grave. Je veux dire, continue. De toute façon, il faudra me tuer, hein.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, mais faudra
t'arrêter quoi.
Donc j'arrête, faudra me tuer. Donc tu vois, je veux dire, je continuerai.
Et alors justement, est-ce que c'est quoi le prochain film dans les tuyaux?
Bah alors le prochain film, il s'appelle Mal d'Aurore et je reviens sur c'est un film que je cherche à faire depuis quand même 15 ans. Et c'est un film où je reviens sur le trauma belge autour de l'affaire Dutroux. Donc c'est librement inspiré de toute l'affaire Dutroux et c'est avec un regard très très cinématographique, hein, j'espère, hein. C'est vraiment un vrai thriller d'enquête avec des référents comme Zodiac ou tu vois, enfin
un thriller d'enquête.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un jeune flic dans le contexte de la Belgique des années 90, donc la guerre des polices et voilà, où je confronte ce personnage à la métaphysique du mal, quoi. La métaphysique du mal, c'est quoi? C'est l'inertie, c'est l'obsession. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? Et donc, si tu veux, c'est tout son parcours jusque donc de 94 à 2002.
Et c'est un plus gros budget.
C'est un plus gros budget. C'est entre la France, la Belgique et l'Allemagne. Mmh. C'est Anthony Bajon qui fera le rôle central. Et autour de lui, ben, j'ai plein d'acteurs. Benoît, il y a Damien, il y a Dahl, il y a Berroyer, il y a
Laurent Lucas
qui vient, Alexis Manenti, enfin il y a beaucoup de monde et c'est un film très ambitieux thématiquement et voilà je pense que je suis prêt aujourd'hui, je suis prêt.
C'est
pour
marrant
le faire.
Parce que quand tu le racontes comme ça, on a pareil encore une fois l'impression d'avoir la confrontation avec un genre très structuré.
Ouais.
Dans lequel on t'attend pas du tout. Enfin, moi, je t'attends pas du tout dans un truc, hein, dans un thriller d'enquête, quoi, justement. Et avec quelque chose qui est totalement, justement, de l'ordre du sensitif. Enfin, c'est-à-dire que tu vas confronter cette enquête et cette structure-là. Enfin, c'est l'impression que ça donne, quoi, tout de suite.
Écoute, on verra.
Une espèce de maelstrom maléfique.
Bah, on jugera sur pièce. Hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout un truc craspec sur les agissements dégueulasses que cette histoire révèle, bien sûr.
Ouais, bien sûr.
C'est vraiment la confrontation d'un jeune gendarme face à l'ignominie, quoi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Où est sa capacité d'action? Qu'est-ce qu'il peut faire contre une inertie politique, etc. Et donc, si tu veux, on questionne ici le mal, quoi, le mal.
Et ça, c'est intéressant, justement. C'est super. Moi, j'aimerais vraiment te voir travailler ça. Moi, quand je pense à ça, c'est bon. Par exemple, les exemples les plus connus, en fait, c'est comme Seven ou ce genre de choses, en fait.
Ou les films de Lumet,
vraiment...
quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment ça. Et en tout cas, c'est l'ambition. Mais encore une fois, dans un contexte qui est le mien, donc le sud de la Belgique. J'ai vraiment hâte. Mais effectivement, c'est un film plus ambitieux où je vais avoir des contraintes. Donc, tu vois, donc.
Mais tu travailles avec les contraintes.
Oui, mais voilà. Et puis surtout, je veux vraiment. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. C'est un portrait. Je vous parlais de la phrase de Doyon tout à l'heure. C'est le portrait de ce jeune homme, quoi.
Et c'est signé? Enfin, je veux dire, c'est financé?
C'est en cours.
D'accord.
C'est en cours et ça devrait se passer pas trop mal. Maintenant, on ne sait jamais les choses.
Et encore avec Poulvord, alors. Ça s'est amélioré depuis, parce que je me rappelle que ça avait été compliqué, ça.
Oui, mais écoute, c'est pas très grave. C'est un acteur
ça
que j'aime.
Ça s'est mieux passé, là, du coup?
Oui, oui,
plus
mais je l'aime totalement. Mm. Je l'aime furieusement, Benoît. J'ai une passion pour Benoît, vraiment. Je pense que c'est quelqu'un... Je pense que c'est un acteur de génie. Je pèse mes mots, hein.
Tu lui as proposé de jouer dans tes films depuis le tout premier,
depuis
en fait.
Que j'ai 15 ans, Benoît. En fait, à l'époque, je faisais une pièce de théâtre à Namur, avec Cécile de France, d'ailleurs, et qui était encadrée par Bruno Bellevaux. Et Bruno Bellevaux, c'était le grand frère de Rémi et de Lucas Bellevaux. Et donc, Benoît, à l'époque, il avait 25 ans. Et le soir, de temps en temps, ils étaient en train de tourner, c'est arrivé près de chez vous, et ils revenaient de tournage, et ils racontaient. Et puis moi, j'étais gamin, je regardais déjà Benoît avec énormément d'admiration et d'agacement, parce qu'il parlait fort, c'était un jeune homme flamboyant, quoi. Tout est son contraire, enfin, c'est. Et depuis, voilà, moi, mon admiration pour Benoît est totale, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir avec moi, en tout cas dans Inexorable, et j'espère le plus longtemps possible, parce que c'est quelqu'un qui m'électrise, vraiment.
Il y a d'autres acteurs ou actrices que tu suis, que t'aimerais bien avoir et qui tu lâcheras pas la grappe tant qu'ils ont.
Oh, je pense que Virginie Efira, j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec elle, ouais. Je la connais depuis longtemps aussi, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment. prodigieuse, elle fait des choix incroyables, et puis elle est d'une intelligence surtout incroyable.
Bon. Eh ben écoute, il faut aller voir Inexorable, c'est ça ?
Oui, oui, s'il vous plaît, allez voir Inexorable, vous ne serez pas déçus.
Fabrice, merci beaucoup.
Merci à vous, vraiment.
Inexorable de Fabrice Duvel, à découvrir en salle à partir du 6 avril. Et on ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'enregistrer un message vocal et de nous l'envoyer sur notre boîte mail saletempourlerépondeur@gmail.com. On le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Freaks Out de Gabriele Menetti. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Salut Capture Mag, alors je donne mon petit avis sur Freaks Out. Je suis pratiquement comme Stéphane et Marie, j'ai beaucoup aimé le film. Malgré des petites réserves, je trouve surtout venant sa durée qui est un petit peu longuette. Donc c'est un film que je conseille, donc voilà, c'est une très bonne curiosité. Voilà.
Bah écoutez, je sors de Morbius, donc c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant. Pour le coup, je vais donc vous donner ma recette de pâté végétal à base de lentilles.
Je viens de voir Morbus et ça m'a juste donné envie de voir Blade et par conséquent Blade 2, donc un mal pour un bien.
Donc il vous faudra 300 g de lentilles cuites, un gros oignon, une échalote, du thym, du laurier, une cuillère à soupe de fécule de pomme de terre, une cuillère à soupe d'armagnac.
Donc Morbus, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, ça a été une bonne surprise. J'ai bien aimé la thématique du vampire fusionné avec celle du super-héros. J'ose le dire, mais à culpa, je trouve que Jared Leto est pas mal dans le rôle. Et j'ai bien aimé sa transformation. Et en plus, elle est assumée tout le long du film, ce qui fait qu'on voit pas trop sa tronche, c'est quand même agréable. De même que la représentation de ses pouvoirs, que j'ai trouvé sympa. Il y a bien une relation homo-érotique avec son double maléfique, et pareil, j'ai trouvé ça pas inintéressant non plus. Et au moins, ça dure qu'1h40, quoi. Donc voilà, moi, ça m'a rappelé ces petites séries B qu'on louait au Vidéoclub dans les années 90, dont la plupart, on va le dire, on les a oubliées, mais pour un dimanche soir, ça a fait ma soirée, c'était plutôt sympa.
Vous mixez le tout, vous pouvez également ajouter des noisettes et des noix. Ensuite, vous mettez ça dans un bocal, vous mettez une feuille de laurier par-dessus, vous refermez le bocal et vous mettez ça dans une casserole d'eau bouillante et vous laissez cuire pendant environ 20 minutes.
Bonjour, du coup je réagis à la critique de Morbus, c'est Robin. Moi je voulais surtout réagir pas forcément à ce que vous dites concernant le film, je ne l'ai pas vu, il m'intéresse pas. Mais surtout par rapport au questionnement qui a surgi durant l'émission, à savoir pourquoi vous vous infligez de regarder ces films. Bon, ben premièrement, c'est votre travail de journaliste de vous infliger certaines choses. Et moi, je trouve ça très bien parce que vous avez une posture intellectuelle. Il faut pas l'oublier quand même. Face à ces films, ce que tous les critiques n'ont pas, vous savez comment ça marche à peu près, faire un film, vous savez les enjeux politico-commerciaux qui sous-tendent la création des films, vous avez à peu près compris et étudié hein, possiblement les grandes théories de la mise en scène, des scénarios, etc. Donc cette posture intellectuelle, elle vous permet justement d'apporter une plus-value sur le regard qu'on peut porter à ces films. Donc, continuez à souffrir. Merci.
J'ai pas vu Morbius, mais par contre, j'ai une petite recette pour vous de pancakes vegan super fluffy. Donc, il vous faut 80 g de yaourt de soja, 10 g d'huile neutre, 10 g de sucre blond, 90 g de farine de blé, 10 g de levure chimique et 85 g de lait d'amande. Vous mélangez le yaourt de soja, l'huile, le sucre blond, vous ajoutez la farine et la levure. Et puis ensuite, vous ajoutez progressivement le lait d'amande. Et ensuite, vous faites cuire tout de suite à feu moyen, et c'est très très bon avec un peu de sirop d'érable.
Donc cette semaine, j'ai subi Morbus, et j'ai vu Freaks Out. Donc le premier Morbus, écoutez, pas besoin d'en parler pendant 10 ans, c'est vraiment, c'est nul quoi, c'est de la merde. Ensuite, Freaks Out, pour le coup, c'est un film qui est beaucoup beaucoup plus intéressant. Moi j'ai vraiment adoré le film, je trouve qu'il y a énormément d'idées intéressantes dedans. J'ai trouvé que Julien était très dur dans sa critique quand il parlait de l'originalité du film, parce que même si le film n'est pas le plus original qui soit, ça c'est certain, c'est un bon film et c'est déjà devenu quelque chose de rare aujourd'hui au cinéma d'exploitation, mais aussi dans le cinéma d'auteur. Déjà on a un bon film quoi, et ça fait du bien.
voilà, vous laissez refroidir et vous dégustez ça avec des cornichons et un bon vin. Bonne soirée.
Ça tombe pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci.
Merci Clémence. Merci Clémence.
Et puis merci Alain à la technique.
Merci.
Et enfin, merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on planche sur d'autres formats de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et à rester indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Sale Temps pour un film. Salut!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Zibby Owens, and I am the host of the award-winning podcast, Moms Don't Have Time to Read Books. I have daily author interview podcasts, over 1,600 of them that I've recorded over the last 5 years. Hear from all your favorite best-selling authors, celebrities, and more. Even if you're too busy to read the books. Moms don't have time to read books. Again, that's Moms Don't Have Time to Read Books. Listen today.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.